Bonjour. On va aujourd'hui parler du pranayama, qui est le quatrième membre de l'Ashtanga Yoga. Je rappelle donc l'Ashtanga Yoga, le yoga des huit membres. Yama, les règles de vie dans la relation à autrui. Niyama, les règles de vie dans la relation à soi-même. Asana, la posture. Pranayama, la maîtrise du souffle. Pratyahara, l'écoute intérieure ou le retour des sens vers le dedans. Dharana, la concentration, dhyana, la méditation, et samadhi, l'état d'unité. On va voir que cet ordre de membres du yoga a un sens. Ils s'étiennent mutuellement et se supportent mutuellement. L'asana, la posture, il s'agit donc de la posture assise réalisée à la perfection, dans le sens à permettre au mental de se poser, s'apaiser et revenir à un état de repos. Le Sutra 48 du deuxième chapitre dit « Quand la posture est réalisée, il y a un dépassement des paires d'opposés. » Quand on parle des paires d'opposés, c'est le chaud-froid, le léger-lourd, effort-non-effort, chagrin, joie, etc. Donc toutes les oppositions qu'on vit habituellement dans un état d'être humain ordinaire. Dans l'état d'équilibre qui découle de la posture, les opposés ne s'opposent plus. Il y a alors l'expérience d'unité et les paires d'opposés n'ont plus d'impact. Le Sutra 49. Ceci étant accompli, on expérimente le pranayama qui est l'arrêt des perturbations de la respiration. Ceci étant accompli, fait allusion à la posture, quand la posture est réalisée. Et la cessation de perturbation de la respiration fait allusion ou suggère que l'inspire et l'expire deviennent tellement affinés qu'on ne distingue plus le temps de l'inspire du temps de l'expire. Il y a comme une sorte de suspension, une sorte de continuité du souffle. Le Sutra 50. Les mouvements de la respiration sont l'expire, l'inspire et la suspension. En portant de l'attention sur l'endroit où se place la respiration, sur son amplitude et son rythme, on obtient un souffle allongé et subtil. On voit là donc que toute la pratique du pranayama vise cet affinement du souffle ou de la respiration pour justement aller d'une qualité respiratoire habituelle, grossière, vers l'aspect souffle qui est l'aspect énergétique, le véhicule de l'énergie. Sutra 51. Une quatrième modalité de la respiration dépasse les plans de conscience où l'on distingue inspire et expire. Le souffle étant vraiment très subtil, et il devient très subtil, il semble comme suspendu ou bien comme s'il y a une continuité d'un bout à l'autre, où il n'y a plus des arrêts, quelque chose qui devient plutôt circulaire. Et la perception d'un calme et d'un état de luminosité intérieure. Sutra 52. Alors, ce qui cache la lumière se dissipe. Ça fait allusion au fait que le mental s'apaise et se calme, et que le souffle devient extrêmement subtil et calme. Et par ce calme, il y a une perception nouvelle qui apparaît, c'est cette perception lumineuse qu'est notre nature profonde. Dans l'état de calme, ce qui cache la lumière se dissipe. Ce qui cache la lumière, c'est notre mental agité et l'agitation du souffle. Dans le Yoga Sutra, comme pour la posture, il n'y a pas une description des postures. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de description des types de pranayama, des types ou des modalités de pratique du souffle, mais une généralité énoncée des effets obtenus quand il y a une réalisation aboutie, soit de la posture, soit du pranayama. Dans le texte qui s'intitule Hatha Yoga Pradipika, il y a à la fois pour le posture une description des postures et à la fois pour le pranayama, la maîtrise du souffle, également des énumérations des différentes pratiques et leurs descriptions. Il nomme huit pranayama On va pas les développer, mais je vais les énumérer. Les Nadi Shodhana, la respiration alternée, le Surya Bedhana, la percée du soleil, Ujjayini, le souffle victorieux, Sitkarin, Sitali, Bhastrika, Murcha et Plavini. Ces différents pranayamas ont comme effet la maîtrise du souffle, aller vers une plus grande maîtrise du souffle. Mais il nécessite un accompagnement personnel guidé par quelqu'un d'expérimenté. Sinon, il y a un danger. On ne peut pas apprendre le pranayama à partir d'un texte seulement, mais on doit être accompagné par une personne expérimentée. C'est une mise en garde très claire. Dans la Hatha Yoga Pradipika, qui est le deuxième texte majeur du yoga, il est dit dans le chapitre 2, versets 15 et 16. De même qu'un lion, un éléphant ou un tigre ne sont domptés que progressivement, de même, le souffle doit être contrôlé par degrés, lentement. Autrement, il tue le sadaka lui-même. Le sadaka, c'est celui qui pratique. Le pranayama, correctement exécuté, détruit toutes les maladies, mais une pratique incorrecte engendre toutes les maladies. L'objectif de la pratique du pranayama est la maîtrise du souffle, le contrôle du souffle. Et il est dit que le contrôle du souffle et le contrôle mental, ou la maîtrise du souffle et la maîtrise mentale, vont ensemble. Ils se soutiennent mutuellement. Ils sont indissociables. Dans le verset 24 du quatrième chapitre de la Hatha Yoga Pradipika, il est écrit ceci. Le manas, manas c'est le mental, le manas et le prana sont mêlés l'un à l'autre comme le lait et l'eau, et leur activité est égale. Là où il y a prana, le manas entre en activité. Là où il y a manas, le prana entre en activité. Roger Claire nous l'avait dit de manière un petit peu différente, là où le mental va, l'énergie va. C'est-à-dire que il est fondamental de maîtriser son mental, son cerveau, son mental, afin d'orienter tous les moyens, toute son énergie vers ce qu'on souhaite et non pas être mené par le bout du nez, par un mental dispersé. Et du coup, une dispersion énergétique également. Les effets donc du pranayama sont la stabilité mentale, la concentration, l'apaisement ou la dynamisation du corps selon ce qu'on souhaite, selon le pranayama qu'on pratique. Un calme mental qui permet également la perception lumineuse. Et évidemment, un deuxième effet est l'augmentation de l'énergie vitale. Plus grande vitalité ou une préservation de la bonne vitalité grâce à la pratique du pranayama. Donc calme mental et surplus d'énergie. Je vais maintenant décrire un peu la progression de la pratique du pranayama dans les cours, afin que ce soit un petit peu plus pratique après ces considérations un peu plus générales. Tout au départ, il y a la simple observation du souffle naturel, le fait de prendre conscience qu'on respire. Habituellement, on respire, mais on ne se rend pas compte. Donc, la première étape serait l'observation du souffle naturel. Puis viendrait ce qu'on appelle pranayuktam, la justesse ou l'ajustement du souffle, ou la qualité du souffle. Où on cherche à ce que la respiration soit plus longue, plus lente, plus fluide et régulière, plus ample, et toujours aisée, toujours confortable. Et on va donner un sens à la respiration, un sens par où on commence l'inspiration et par où on commence l'expiration. Mais avant cela, on aurait à débloquer physiquement la respiration. Assez souvent chez les gens, la respiration est un peu limitée, bloquée par des tensions ou des raideurs corporelles. Donc le premier apprentissage, c'est comment développer la respiration diaphragmatique, abdominale, puis la respiration thoracique et la respiration haute, la respiration sous-claviculaire. Donc les trois étages de la respiration. Et à ceci est associé un travail d'assouplissement costal en particulier, de la cage thoracique pour faciliter une inspiration thoracique et une tonification abdominale périnéale pour améliorer la possibilité d'expiration et la détente et l'assouplissement du diaphragme afin qu'il puisse faire son mouvement correctement. Après les trois étages de la respiration, on va retrouver la respiration dite complète ou yogique complète qui va prendre le sens suivant, prana-apana. L'inspiration démarre du haut du corps vers le bas du corps et l'expiration va commencer du bas du corps vers le haut. Et ceci à la fois pour aller dans le sens de la bonne santé et même dans le sens du flux de l'air naturel et dans le sens du mouvement naturel du diaphragme, mais en l'accentuant. C'est-à-dire que l'inspiration descende et l'expiration remonte. Après une longue période de pratique et familiarisation avec la respiration, la mise en place des bases, on pourrait passer aux différents types de pranayama, différentes pratiques respiratoires, comme j'avais nommé tout à l'heure, Nadi Shodhana, Suryabhedana, Ujjayini, etc. Puis on pourrait mettre en place les rythmes respiratoires qui sont soit des rythmes apaisants, soit dynamisants, soit équilibrants, selon ce qui est nécessaire. Les rythmes respiratoires incluent quatre phases au niveau de la respiration: l'inspiration, la suspension de souffle poumon plein, l'expiration et la suspension de souffle poumon vide. À des proportions différentes, ça crée les rythmes différents. Grâce au pranayama, on va arriver à apaiser et calmer le mental pour éventuellement déboucher à l'état de méditation. Donc le pranayama est un des moyens favorables ou privilégiés pour accéder à l'état de méditation. Si je devais résumer, donc grâce au pranayama, on peut arriver à une maîtrise mentale, une maîtrise de l'énergie vitale et les conditions favorables à l'état de méditation.